podcast France Culture.
Une couverture blanche, une écriture sobre, un seul mot, journal. Un sous-titre, janvier-juin 2020, et un bandeau bleu roi, Agnès, tu as fait peur au président. Il lui fallait un livre et 490 pages pour revenir sur cette bascule mondiale, rare moment commun d'une époque fracassée, le Covid et ses 6 premiers mois qu'elle a vécu au plus près. Professeure de médecine, multinommée aux plus hautes responsabilités, en 2017, elle quitte tout ce qu'elle a construit. Ses malades de la leucémie, ses collègues des plus grands hôpitaux parisiens et sa vie de famille pour rejoindre la Macronie et l'avenue de Ségur. Quand survient la plus grande épidémie du siècle, elle abandonne son poste de ministre de la Santé et part en campagne des municipales à Paris à cause d'une vidéo sexuelle exhumée de Benjamin Griveaux, le candidat du président qu'elle remplace au pied levé. Ex-belle-fille de Simone Veil, elle emporte parfois le même chignon. Que pense la femme médecin de la femme politique? Que pense la femme politique de l'état de la santé en France? Comment tirer les leçons de ce qui s'est passé des points de vue politique et sanitaire? Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette émission, une invitée et 3 archives sonores pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Alors Agnès Buzyn, je le disais en introduction, avant d'entrer au gouvernement d'Édouard Philippe le 17 mai 2017, vous avez une carrière scientifique exceptionnelle. Vous êtes professeur de médecine, hématologue. En 2008, vous êtes nommé à la tête de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 3 ans plus tard, à la tête de l'Institut national du cancer. À 53 ans, vous êtes la présidente de la Haute Autorité de Santé, avant qu'on vous propose d'entrer en politique comme ministre des Solidarités et de la Santé. Ma question est simple, Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous êtes allée faire dans cette galère?
J'ai toujours aimé l'engagement, j'aime la vie publique. La politique, c'est s'occuper des autres, et c'est de faire en sorte que la vie des gens soit la meilleure possible. Donc quelque part, quand on s'engage dans des agences sanitaires, qu'on s'engage en médecine pour aider son prochain, et qu'on voit des systèmes qui dysfonctionnent, et notamment le système de la santé, on se dit qu'on va peut-être pouvoir être utile en s'engageant en politique.
Alors, 3 jours avant d'être nommé ministre, vous êtes à l'hôpital Saint-Antoine, auprès de vos malades, en consultation, et vous vous plaignez de la saleté des ascenseurs, de la lenteur des ordinateurs. Et c'est à ce moment-là qu'on vous propose d'entrer au gouvernement. Comment ça se passe exactement? Qui vous appelle? Et surtout, est-ce que vous hésitez?
Alors, on m'appelle la veille de la constitution du gouvernement, donc le mardi matin. Je déambule dans les salons des hôpitaux, porte de Versailles. En tant que présidente de la Haute Autorité de Santé, je dois faire l'ouverture du salon. Et je reçois plein de coups de téléphone avec un numéro anonyme, je dirais, et pendant que je parle. Et à la fin, je réponds et on me dit « c'est la secrétaire du Premier ministre ». Voilà, donc je rencontre le Premier ministre le mardi, je rencontre le Président de la République le mercredi matin et je suis nommée au gouvernement le mercredi après-midi. On nous donne 3 heures pour donner une réponse, donc 3 heures où je réunis ma famille et je leur dis quelque chose de prémonitoire, terrible. Je leur ai dit, écoutez, la politique c'est passionnant, c'est fascinant, c'est utile, mais ça salit. Et je vous préviens, j'ai une réputation hors norme, mais je sais que je sortirai salie de cette période.
Ah, vous leur dites ça? Et comment ils réagissent? Ils vous encouragent?
Ils m'encouragent parce qu'ils savent que j'ai des idées pour réformer le système. C'est lié à mon parcours, le fait que je suis encore médecin à l'hôpital, que j'ai dirigé des agences. Et donc j'ai une vision de ce qu'il faut faire pour essayer de réformer le système de santé qui va vraiment mal.
Justement, vous écrivez dans ce livre, on sait qu'on doit incarner très vite la fonction quand on est nommé ministre. Est-ce que vous avez ressenti une forme de dédoublement? C'est-à-dire que vous étiez avec vos collègues en train de vous plaindre de l'état de l'hôpital et d'un coup, vous devenez leur responsable. Vous prenez de plein fouet la difficulté du pouvoir, les lenteurs, voire l'impuissance publique.
Alors, je réalise déjà que quand on est médecin ou quand on est à l'hôpital, on n'a pas toutes les données. Et c'est en arrivant ministre que je découvre quelque part l'ampleur du désastre. C'est-à-dire les budgets des hôpitaux, les dettes et surtout la démographie médicale qui est catastrophique et que personne ne connaît. Et donc c'est là où on se dit qu'on n'explique pas suffisamment aux acteurs de l'écosystème comment fonctionne le système et pourquoi il est tellement en difficulté. On reste toujours dans le constat, ça va mal, mais en réalité, on ne donne pas les clés pour comprendre pourquoi ça va mal et ce qu'il faut faire pour rénover. L'autre difficulté pour moi, la plus dure, ça a été de quitter ma casquette de médecin. Surtout les premières semaines, dès que quelqu'un mourait en France, dès qu'il y avait un accident, un incendie, je me sentais en responsabilité de médecin. Et j'avais la sensation qu'il ne fallait plus que personne ne tombe malade, que j'étais en responsabilité de 67 millions de personnes. Et là aussi, il m'a fallu un peu de temps pour endosser la casquette de ministre.
Dans ce journal, ce qui est très intéressant, Agnès Buzyn, c'est que vous dévoilez énormément les coulisses de la politique. Vous citez des SMS, des échanges que vous avez avec Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Vous mettez des notes que vous leur envoyez, et notamment celle-ci, juste avant le Covid. Je vous cite, vous voulez faire comprendre au président Emmanuel Macron que la crise de l'hôpital ne se réglera pas d'un coup de baguette magique. C'est un peu désespérant de lire ça, surtout quand on sait comme les Français sont attachés à la santé, à l'état de santé en France.
Oui, moi la première, hein, j'ai passé 30 ans de ma vie à l'hôpital public, toute ma famille travaille à l'hôpital public, donc l'attachement il est profond. Mais c'est là où je pense qu'il y a absolument besoin pour les politiques de mieux expliquer la réalité et que les gens comprennent que la crise de l'hôpital elle vient de très loin. Je l'explique dans le livre, je pense que le passage est assez éclairant. Et effectivement, il faut des années. Il faut des années pour former des médecins, il faut des années pour former des infirmières. La crise des systèmes de santé, elle est mondiale. Il n'y a pas que la France, en réalité, qui est en déficit de médecins et d'infirmières. Tous les pays du monde vivent la même problématique des déserts médicaux.
Avant la crise du Covid, toujours, vous écrivez dans ce livre, votre journal chez Flammarion, Agnès Buzyn, il me semble impossible d'échapper à une loi sur le grand âge, sauf à avoir un nouveau secteur en crise. Cette loi, vous ne l'aurez jamais, Agnès Buzyn, et aujourd'hui encore, 6 ans après la première élection d'Emmanuel Macron, on l'attend encore.
Alors, elle était en cours de rédaction, on avait beaucoup avancé au moment où j'ai quitté le ministère. Bon, il est clair que la crise du Covid, avec la déflagration économique que ça a été pour le monde entier, elle a rebattu totalement les cartes des priorités aussi. Donc, on a depuis la guerre en Ukraine, on a la crise de l'énergie. Donc, on ne peut pas en vouloir, je dirais, au pouvoir exécutif de s'adapter à la réalité du quotidien. Et aujourd'hui, la réalité, c'est l'inflation, c'est la crise de l'énergie et c'est le réchauffement climatique.
À quel moment précis vous commencez l'écriture de ce journal ?
Je le commence 5 jours après le début du confinement, alors que devait se tenir le deuxième tour des municipales. Je suis attaquée de toutes parts et je me dis que, comme je prévois d'aller travailler à l'hôpital comme médecin, que je vais peut-être mourir du Covid, comme tous les gens qui ont peur, j'ai peur. Et je me dis que mes enfants ne sauront jamais ce qui s'est réellement passé. Et je décide d'écrire pour eux. Et donc je reprends tous mes agendas, mes textos, mes conversations téléphoniques, mes notes, et je reconstitue ces 2 premiers mois de janvier-février, et puis ensuite j'écris au jour le jour, en fait à partir du 22 mars. C'est vraiment un journal au jour le jour.
Que vous avez réécrit ?
Alors je l'ai réécrit pour le rendre plus lisible. D'abord, il fallait que le traumatisme de cette période s'éloigne, pour moi et pour les Français aussi. J'en ai fait un travail beaucoup plus analytique. Il y a assez peu de remarques d'émotions. C'est un décryptage factuel de ce qui nous est arrivé.
Et des éléments bruts. Allez, on va écouter une première archive sonore, Agnès Buzyn, qui vous concerne. Nous sommes le 17 février 2020, avenue de Ségur. Vous quittez le ministère de la Santé. Et lors de la passation de pouvoir avec votre successeur, Olivier Véran, voilà ce que vous déclarez.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé pour mener la campagne des élections municipales à Paris. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai eu l'honneur de conduire les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous, elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur, et je serai au rendez-vous. Je vous remercie.
Écoute, vous aimez encore cet extrait sonore, Agnès Buzyn.
Je n'imaginais pas à quel point... Enfin, j'avais oublié à quel point j'étais émue, en fait, à quel point c'était difficile. Je me souviens que la décision était atroce, que ce week-end-là était vraiment voilà, très, très difficile pour moi. Et j'avais oublié que j'avais du mal à parler. Je me souviens du mot déchirement, parce que c'était vraiment ce que je ressentais.
À la page du 17 février 2020, dans ce livre, jour de cette passation de pouvoir qu'on vient d'entendre, Agnès Buzyn, vous écrivez « Une larme que j'essuie timidement fera la joie des réseaux ». C'est un peu plus qu'une larme.
Je n'ai pas réécouté ce passage. Maintenant que je l'en réentends, peut-être que j'aurais écrit cette journée différemment. Je l'ai écrite telle que je m'en souvenais. L'émotion était plus importante. Mais c'est vrai que la larme qui coulait a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé à être attaquée au moment du confinement, les gens que je croisais dans la rue se moquaient de moi sur cette larme. Et c'est pour ça que je l'ai retenue.
Pourquoi vous pleurez à ce moment-là?
Parce que je suis habitée par le doute. La chronologie de la crise fait que mon pressentiment, mon inquiétude vis-à-vis du Covid n'est pas encore corroborée par les faits. L'épidémie n'est pas sortie de Chine, je doute de moi, tout le monde me prend un peu pour une folle, et on m'envoie à Paris. Je sais que Paris, c'est une campagne municipale très dure. Je n'ai pas cette expérience-là, j'ai face à moi des candidats très expérimentés. Je me dis, mais si l'épidémie arrive, voilà, est-ce que j'ai raison d'y aller? En fait, je suis en plein doute.
Vous incriminez l'OMS dans ce texte, Agnès Buzyn, qui a tardé, selon vous, à prendre conscience du caractère mondial de l'épidémie. En avez-vous compris les raisons? Puisque je rappelle que l'OMS déclenche le stade pandémie le 11 mars.
Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont lieu. Il y a eu des rapports internationaux sur l'action de l'OMS, qui d'ailleurs relève le délai initial de l'OMS dans la prise en compte de la gravité. Je ne critique pas, en fait. C'est un journal que je tiens au jour le jour. Et donc, je fais simplement part de mes interrogations et mes textos rendent compte des interrogations et de mon agacement. Mais à l'époque, je ne suis pas en train de donner des leçons. Je suis en train de vivre une crise au quotidien. Et donc, ce qui est dans le livre correspond exactement à mon état d'esprit du moment. Ça n'est pas une reconstruction a posteriori où j'attaque un tel ou un tel.
Et vous voyez que l'OMS, à votre avis, est en dessous de tout, c'est ce que vous dites. Je n'ai pas confiance dans la direction de l'OMS qui ne veut probablement pas froisser le gouvernement chinois. Les enjeux économiques et politiques sont majeurs dans ce type d'institution. L'OMS a pris une mauvaise décision. L'OMS et l'Europe sont flous et inaudibles. Vous y allez quand même assez fort, d'un point de vue de l'observatrice. En revanche, sur les masques, c'est ce qui m'a beaucoup étonnée dans ce texte. Ils n'apparaissent finalement que très peu, alors même que c'est sans doute ce qui, symboliquement, va rester de cette crise. Pourquoi en parler si peu?
Non, alors je donne des explications, mais j'essaie d'expliquer la raison. C'est un peu long, mais il y a deux types de masques. Des masques qui sont pour les soignants, et ceux-là, nous en recommandons très vite. Et puis il y a les masques pour la population. Or, ce que personne ne dit, c'est qu'aucune recommandation au monde à l'époque n'imagine donner des masques à toute la population. C'est réservé aux gens malades. Et donc, à aucun moment, les stocks nulle part au monde ne sont pensés pour la population.
Et vous citez l'avis de l'OMS, vous le publiez tel quel dans votre ouvrage à la page du 30 mars. Il n'y a pas de preuves suggérant que le port du masque par l'ensemble de la population est un effet bénéfique. En fait, il y a plutôt des preuves qui suggèrent l'inverse parce que les masques sont mal utilisés ou mal mis. Ce qui m'étonne, Agnès Buzyn, c'est que là, vous ne critiquiez pas l'OMS, alors même que cette décision, on le saura plus tard pour avoir porté des masques pendant 2 ans, elle était sans doute erronée.
Bien sûr qu'elle est erronée, mais la science avance en marchant. En réalité, quand vous reprenez, je l'ai fait pour la Cour de justice, la totalité des recommandations au niveau mondial, quels que soient les pays du monde, des agences sanitaires, aucune ne recommande jamais le port du masque pour des épidémies. Et en réalité, c'est les caractéristiques de ce virus qu'on découvre petit à petit qui amènent à dire que les masques sont utiles en population générale. Donc, en fait, ce qui m'a frappé dans cette crise, c'est un récit collectif initial qui n'a pas été décrypté. Donc, voilà. Mais ce journal permet de mieux comprendre au jour le jour pourquoi on prend les décisions, comment on les prend et sur quelle base réglementaire, sur quelles recommandations on s'appuie.
Il y a ce que vous écrivez et il y a ce que vous n'écrivez pas. Le 26 janvier, devant la presse, vous déclarez « Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. D'ailleurs, il y a des dizaines de millions de masques en stock. » À la date du 26 janvier 2020, dans votre livre, aucune mention de cette interview. Pour quelle raison ?
En fait, j'ai repris mes SMS et mes mails et mes agendas. Donc, je n'ai pas repris toutes mes conférences de presse. Ce livre ne retranscrit pas mes conférences de presse. Et je, à cette époque-là, j'aurais dit la même chose encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épidémie hors de Chine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on se regarde toujours le nombril. Mais là encore, j'ai regardé des vidéos de toutes les villes d'Europe pendant le mois de janvier, février, mars. Toutes les villes d'Europe confinent à peu près au même moment. Il n'y a aucune image de personnes portant le masque en Europe avant le confinement. Et en fait, la question des masques se pose pour absolument toute l'Europe le même jour quasiment, c'est-à-dire la deuxième quinzaine du mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi nous avons mis autant de temps à comprendre les caractéristiques du virus, c'est qu'il était très atypique et qu'il a fallu beaucoup de temps aux scientifiques pour consolider les connaissances. Et comble de tout ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas construire une connaissance tant que l'épidémie ne commence pas dans notre pays. On ne peut pas, alors qu'elle est en Chine uniquement, comprendre comment ça fonctionne et comment ça se transmet.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'on a manqué de masques ?
Alors, je dirais que pour les soignants, la pénurie, elle est essentiellement pour les libéraux, qui, en fait, sont en charge même d'acheter leurs propres masques. Mais nous le savons tout très vite, nous nous doutons que les libéraux n'ont pas fait de stock, et la première chose que nous faisons, c'est de racheter des masques pour les libéraux.
Vous exprimez une vraie souffrance dans ce livre sur l'image que le pays a de vous, Agnès Buzyn. Vous dites que vous étiez la coupable idéale, mais à aucun moment vous n'exprimez de regrets. Est-ce que vous avez fait des erreurs stratégiques, tactiques ou politiques ?
Alors, certainement, tout le monde. Alors d'abord, qui agit parfaitement dans une crise de cette ampleur ? Ça, c'est une vraie question. Je ne crois pas qu'aucun pays peut considérer qu'il a tout fait parfaitement. Après, le résultat final, je dirais, pour la France, est plutôt satisfaisant quand on compare aux autres pays. Malheureusement, il y a quand même des drames individuels. Mais aurions-nous pu les éviter ? Est-ce qu'un pays au monde a évité la pandémie ? Aucun. Et même la stratégie zéro Covid qui a été mise en place en Chine, on a bien vu ses limites. Donc, voilà, les erreurs, la plus grande erreur pour moi, ça a été de quitter le ministère, qui est un concours de circonstances chronologiques, qui est lié au fait que l'épidémie n'avait pas commencé hors de Chine, qu'aucun spécialiste ne croyait en cette épidémie, et que moi-même, je doutais de ma vision. Si l'épidémie qui a commencé en Italie 6 jours après mon départ avait commencé 6 jours avant, jamais on n'aurait réussi à me faire quitter le ministère.
Eh bien justement, on va écouter un deuxième extrait sonore, Agnès Buzyn. Alors même que vous avez dit au président de la République le 8 février que vous ne souhaitiez pas vous engager dans la campagne des municipales de mars 2020 à Paris, y compris comme colistière, parce que la situation sanitaire est trop grave à vos yeux, un événement va venir tout chambouler.
Quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. Et puis, c'est le projet pour Paris, celui que nous avons construit, pour lequel nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi. Merci aux équipes de campagne qui ne comptent pas leurs heures depuis tant de mois.
La voix nouée de Benjamin Griveaux le 14 février 2020, candidat à la République En Marche au municipal de Paris qui jette l'éponge, effondré. Où êtes-vous, Agnès Buzyn, et que ressentez-vous quand vous découvrez cette vidéo ?
Alors, je sors d'un interview sur France Inter où je viens d'annoncer brillamment que je renonçais à m'engager sur une liste au municipal parce que j'ai trop de travail. Donc je viens d'annoncer que je n'irai pas, même sur une liste. Et arrive cette vidéo que je découvre en sortant du studio. Et là, je ne sais pas pourquoi, là encore un pressentiment, je me dis que ça va me tomber dessus. Et je ferme mon téléphone. Je ne réponds plus à personne, je ne veux rien savoir. Je pars à Carry-le-Rouet pour remercier les équipes. Et puis mon téléphone n'arrête pas de sonner toute la journée. Je le raconte dans le livre, c'est un moment... voilà. C'est le battement d'aile du papillon, cette histoire de Benjamin Griveaux, battement d'aile du papillon qui m'a précipité dans un tourbillon invraisemblable. Ça arrive dans la vie. Peut-être n'aurait-il dû pas démissionner, car en fait il n'avait rien de répréhensible dans ce qu'il a fait. C'était une affaire privée, mais peut-être était-ce trop violent pour pouvoir continuer. Voilà.
Vous en parlez très peu de Benjamin Griveaux dans ce livre. Est-ce que vous lui en avez voulu ? Est-ce que vous avez eu des échanges avec lui pendant la campagne ou encore aujourd'hui ?
Alors, j'ai eu des échanges avec lui un tout petit peu au début de la campagne, notamment pour lui signifier que j'allais un peu changer le programme. Et puis, non, sincèrement, ce qu'il a vécu est horrible. Je n'ai pas du tout envie de rajouter à cette douleur, en fait. C'est très difficile ce qu'il a vécu.
J'allais dire, c'est un discours qu'on a peu entendu à l'époque, le fait que Benjamin Griveaux est une victime, qu'il est victime de cyberviolence et qu'il n'avait sans doute pas à démissionner. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion à ce moment-là de mieux lutter contre les violences en ligne ? Vous qui en êtes d'ailleurs souvent la cible.
Oui, enfin, ce livre le démontre, je pense, factuellement. C'est qu'à un moment, les réseaux sociaux font l'opinion publique. Et que aujourd'hui, dans un certain nombre de journaux, les réseaux sociaux sont les rédacteurs en chef des journaux. Et c'est bien le problème. Donc, ce livre cherche à tirer des leçons de ce que nous avons vécu. Dans les leçons, il y a évidemment le rôle des réseaux sociaux dans la déstabilisation des démocraties. Quand on voit la puissance de la désinformation, la manipulation de l'opinion, y compris jusqu'aux médias les plus traditionnels qui sont influencés par les réseaux sociaux, ça fait peur. Et effectivement, Benjamin Griveaux en est la première victime.
Et vous aussi, vous avez vécu des attaques, vous en vivez encore, des menaces de mort, vous avez même été agressé dans la rue. Et aujourd'hui encore, vous êtes sous protection policière à cause de ça, Agnès Buzyn. Comment on vit avec tout ça ?
Avec le recul, j'ai pensé qu'il était utile qu'on se réapproprie cette histoire collectivement. D'où l'objectif d'écrire ce livre de décryptage. Moi, j'espère que ce soit une contribution au débat, que ce soit une réflexion collective sur ce qu'on a fait bien ou ce qu'on a fait mal et comment collectivement on pourra mieux faire la prochaine fois. Donc c'est vraiment un livre d'analyse, même s'il repose sur un journal au quotidien. Et je pense que nous en avons besoin.
On comprend en vous lisant, et vous venez d'en parler, que vous recevez énormément de pression politique pour récupérer cette place de Benjamin Griveaux et aller comme tête de liste à la campagne des municipales à Paris. Vous recevez des coups de fil du président de la République Emmanuel Macron, de François Bayrou, de Richard Ferrand. Et vous écrivez, page 23, « Les femmes pèsent moins que les hommes aux yeux du couple exécutif ». Avez-vous ressenti une forme de sexisme dans cette pression qui vous est mise pour reprendre le flambeau ?
Je n'utiliserai pas le mot sexisme, et d'ailleurs, ça n'est pas, il n'y a pas de misogynie, ça n'est pas ça. Et je pense que c'est une mauvaise interprétation du mode de prise de parole des femmes. Je pense que nous exprimons plus facilement des doutes. Je pense que la voix porte moins, et la voix compte en politique, puisque c'est un monde de rapport de force. Or, la façon dont les femmes peuvent exercer le pouvoir dans un monde de rapport de force ne passe pas par les mêmes outils que les hommes. Et donc, ce défaut de la voix, ce défaut d'un ton péremptoire, est mal interprété par le monde politique qui est très masculin.
Est-ce que votre erreur, finalement, ce n'a pas été de ne pas savoir résister à la pression du président de la République ?
Oui, certainement. Évidemment, et je pense que si ça se reproduisait, je ferais plus confiance à mes intuitions, à mon instinct et à mes convictions. Oui, certainement. C'est peut-être aussi mon inexpérience de la vie politique. On m'avait expliqué que j'avais eu une chance inouïe d'être ministre, que voilà, qu'on m'avait donné cette chance et que je devais rendre quelque part l'immense honneur qu'on m'avait fait et qu'à un moment, il faut être loyal.
Et pourtant, en 2018, quand vous décidez de dérembourser l'homéopathie, vous menacez de démissionner. J'aime beaucoup cette anecdote dans le livre. Vous êtes à la table du Conseil des ministres. Emmanuel Macron, sans s'adresser à vous, estime qu'il ne faut pas, je cite, « emmerder les Français sur l'homéopathie ». Et vous faites passer un petit mot à Édouard Philippe, Premier ministre. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce petit mot, Agnès Buzyn ?
Je lui dis « Édouard, si on m'empêche de dérembourser l'homéopathie, tu n'as plus de ministre de la Santé mercredi prochain ». Mais parce que ça fait appel à mes fondamentaux de scientifique. C'est viscéral, en fait. On ne peut pas, à un moment, m'obliger à des telles concessions scientifiques.
Question Instagram de Valerio à Marseille. Pourquoi n'avez-vous pas démissionné en rendant public le problème et les faiblesses d'arbitrage de l'exécutif?
Démissionner de quoi? En fait, quand je suis ministre, c'est pour ça, les gens compactent le temps. Quand je suis ministre, c'est-à-dire les six premiers mois de 2020, je n'arrête pas d'agir. Je n'ai aucune raison de démissionner, tout le monde m'écoute. Nous commandons des masques, nous commandons des respirateurs, nous mettons en tension les hôpitaux avec le plan Orsan, nous n'arrêtons pas de faire des réunions de crise au ministère, nous invitons les fédérations hospitalières, les syndicats, les ordres. En fait, le ministère est branle-bas de combat. Et je dirais que le couple exécutif me laisse faire. Mon problème, c'est qu'ensuite, je pars en campagne et l'épidémie démarre en Italie 6 jours après mon départ. C'est là où je comprends que ma perception du risque est la bonne et c'est là où je comprends que l'épidémie va arriver. Mais je ne suis plus ministre. De quoi je dois démissionner? D'être candidate à la mairie de Paris? Non, je suis candidate à la mairie de Paris et j'essaye d'alerter l'exécutif sur le fait que les conseils qu'on leur donne, parce que je les entends à la télé et j'en fais part dans le livre, ne sont pas les bons. Parce que je vois la catastrophe arriver, mais je n'ai plus de raison de démissionner de quoi que ce soit, je ne suis plus ministre.
Question Instagram de Vincent à Paris. Pourquoi ne pas avoir pris les Français à témoin tant qu'il était encore temps? Parce que c'est vrai que vous alertez, comme vous pouvez l'exécutif, on le lit dans le livre, mais vous ne le dites pas publiquement. Et vous faites une campagne qui est un cauchemar. Vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas envie d'être là, vous le racontez très bien, ça aussi avec une grande sincérité.
Non, je fais la campagne correctement, parce que je suis, je fais le job. Je fais le job, mais c'est vrai que je suis clivée, je vois cette crise arriver et je ne comprends pas. Et à chaque fois que je dis au Premier ministre, au Président de la République, il faut confiner, il faut tout arrêter, on me dit, mais enfin, il y a un conseil scientifique. Et mon problème, c'est que je n'ai plus les données, je n'ai plus les chiffres. Quand je suis ministre, je travaille avec les agences sanitaires, avec des scénarios, avec des chiffres. Là, je n'ai plus rien, je n'ai que ce que je vois dans les journaux. Donc je me dis peut-être qu'ils ont des données que je n'ai pas. Et donc,
mais est-ce que c'est vraiment votre place à ce moment-là en tant que candidate à la mairie de Paris? Vous dites que vous faites une campagne sérieuse d'alerter le président de la République. Vous lui dites par exemple, soyez instinctif, n'écoutez pas ceux qui vous conseillent. D'alerter Édouard Philippe, c'est à pleurer de voir qui vous conseille. Lundi, je serai au front à l'hôpital, dans un mois peut-être morte. Est-ce que à ce moment-là, vous n'avez pas été un peu en décalage? Peut-être même, pardonnez-moi l'expression, la mouche du coche.
Je pense que je gêne, c'est-à-dire que clairement, personne autour du couple exécutif ne semble avoir la même perception que moi, ou ceux qui l'ont ne l'expriment pas. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a un défaut fondamental sur le conseil scientifique. Ce ne sont pas les problèmes de personne, parce que dans le conseil scientifique, il y a des gens absolument remarquables, qui sont des très grands scientifiques, c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, le conseil scientifique mélange les gens. Il mélange des données purement scientifiques, c'est-à-dire un temps de doublement de l'épidémie de 4 jours, avec l'acceptabilité sociétale des mesures de confinement. Et là, c'est comme si on demandait au GIEC de donner des scénarios sur le changement climatique tout en amenuisant ces scénarios en disant « oui, mais la société n'est pas capable d'accepter l'augmentation du prix de l'essence ». Donc en fait, ça n'est pas un conseil scientifique. C'est ça le problème.
Il y a un exercice classique à Sciences Po, c'est de tenter de savoir si les médecins et les profs font de bons ministres de la Santé et de l'Éducation nationale. Avez-vous trouvé la réponse à cette question, Agnès Buzyn ?
Ce qui me revient, je dirais, de l'écosystème médical, c'est que le constat que j'avais fait sur notre système de santé et la loi Ma Santé 2022 étaient des bonnes orientations et que le constat était juste. Et ça, je pense que c'est quand même ma vision à ce que c'est de médecin. En tous les cas, c'est de quelqu'un qui s'est investi dans le système de santé depuis des années parce que j'ai dirigé des agences, parce que j'ai vu le fonctionnement de notre système de très près. Pour autant, ça n'est pas parce que vous êtes médecin que vous faites un bon ministre de la Santé, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour la société civile en politique? Moi, je pense que oui, parce qu'on a quand même besoin d'expertise et de compétences.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Toujours avec Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Qui sont vos modèles inspirants, morts ou vivants?
Alors, des personnes qui ont été très courageuses dans la vie politique française, en avance de phase, et qui ont osé affronter des opinions publiques défavorables, c'est-à-dire Simone Veil et Robert Badinter. Ils ont vécu des insultes, des menaces de mort pendant des années pour leur prise de position et pour les lois qu'ils ont faites. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'admire en politique, c'est le courage.
Vous avez beaucoup pensé à eux pendant ces 3 ans?
Oui. Oui, parce que dans les attaques, il y a eu énormément d'attaques antisémites. Je pense que le fait que je sois une femme juive a pu compter dans la violence des coups que j'ai reçus. Et donc, oui, je me suis identifiée à ces grandes figures de la politique française qui ont pris aussi des coups parce qu'ils étaient juifs.
Eh bien, justement, on va écouter un extrait que vous nous avez apporté, Agnès Buzyn. On l'écoute, on en parle juste après.
Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêver de plus noble. L'abolition de la peine de mort n'a jamais, jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
Le 17 septembre 1981, à la tribune de l'Assemblée nationale, Robert Badinter, garde des Sceaux de François Mitterrand, prononce un discours qui marque sa vie et l'histoire. 3 semaines plus tard, l'abolition de la peine de mort sera votée. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un choix d'éthique pure, parce que c'est un choix courageux contre l'opinion publique, parce que c'est la première décision du gouvernement de François Mitterrand, donc c'est une symbolique extrêmement forte. Ce qui m'attriste et me révolte, c'est que 40 ans plus tard, la peine de mort n'est toujours pas établie dans un très grand nombre de pays du monde, et que nos valeurs universalistes, européennes, ne sont pas partagées. Et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui dans le monde actuel. On espérait un grand mouvement, une aspiration vers des démocraties dans tous les pays du monde. Et ça n'est pas le cas.
Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi? Comment on en est arrivé à cette ère de la post-vérité, du complotisme?
Alors, je pense que ça nécessite des batailles acharnées, des institutions, des prises de parole publiques fortes. Et force est de constater que toutes les personnes qui s'exposent aujourd'hui, je pense à Caroline Fourest par exemple, prennent énormément de coups, sont soumises à des pressions, à des menaces en permanence, et que ça peut décourager des citoyens de bonne volonté. Et en fait, les plus forts gagnent aujourd'hui dans notre société.
Et la nuance manque?
La nuance manque, bien sûr, ça c'est aussi un constat de ce livre en fait, c'est que les problèmes sont complexes, extrêmement complexes, la vie est complexe, la vie est incertaine, et que nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques qui savent partager cette complexité et l'expliquer. Or, là encore, la vie politique aujourd'hui, je trouve, se résume à des slogans, à des invectives, à de la violence, et c'est totalement désespérant.
Un autre combat qui régresse dans le monde, c'est celui de l'avortement, celui de Simone Veil. Êtes-vous favorable à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution?
Je ne l'étais pas quand j'étais ministre, parce que je trouvais que ça n'avait rien à y faire. Mais plus je vois les reculs dans un certain nombre de démocraties sur ce droit, plus je me dis que c'est peut-être quand même une sécurité. Donc je suis en train de changer d'avis parce qu'en réalité, nul n'est à l'abri de la réduction du droit des femmes à vivre librement. Et donc c'est un constat qui est largement partagé aujourd'hui. Beaucoup de pays reculent. Et je pense qu'aujourd'hui, la place de la femme, et je n'étais pas une féministe engagée quand j'étais plus jeune, mais je trouve que la place de la femme est tout le temps remise en question et qu'elle est extrêmement fragile dans notre société. Et ce que j'ai vu en géopolitique internationale lorsque j'étais diplomate à l'OMS m'a effrayée. En réalité, vous passez des jours et des jours à l'OMS à négocier des résolutions où il y a le mot « santé sexuelle » parce que de très nombreux pays ne veulent même pas voir le mot. Les droits LGBT sont bafoués partout. Donc, je pense qu'il faut mener ce combat des libertés, ce combat de du respect de la personne humaine, du libre choix et ce combat pour la place des femmes.
Je le disais en introduction, vous avez été la belle-fille de Simone Veil, puisque vous avez épousé son fils Pierre-François Veil en 1985, vous êtes aujourd'hui remariée. Quel type de belle-mère était-elle ?
Extraordinaire, absolument extraordinaire. Elle m'a surtout donné le goût de la politique tel que je l'entends, c'est-à-dire la politique au sens noble du terme. Et je la remercie pour cette passion qu'elle m'a communiquée.
Vous lui succédez de manière lointaine au ministère de la Santé et vous avez dit un jour « si je suis à ce ministère, c'est grâce à elle ». Quand vous faites sa connaissance dans les années 80, vous vous doutiez que vous alliez un jour être dans son bureau ?
Non, pas du tout. J'étais interne en médecine à l'hôpital et ma carrière était une carrière de clinicienne hospitalière. Non, pas du tout, évidemment. Mais par contre, je pense qu'elle m'a initiée. Elle, comme son mari Antoine d'ailleurs, ils m'ont initiée à l'engagement dans la vie publique, avec leur éthique et leur droiture.
Quel est votre meilleur souvenir de ministre, Agnès Buzyn ?
Défendre des lois. Défendre des lois au Parlement, essayer de convaincre, avec des argumentaires, j'ai aimé vraiment débattre avec les parlementaires.
Quelle loi ?
La loi de bioéthique, bien sûr. Elle a été très importante pour moi. J'avais promis de la faire passer de façon respectueuse, sans heurts. Et ça a été un moment de débat parlementaire vraiment extraordinaire, que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée.
Quel est votre meilleur souvenir de médecin ?
J'ai aimé accompagner mes malades dans ce chemin de la maladie pour les ramener vers le chemin de la vie. C'est comme ça que je voyais mon rôle.
Que disiez-vous aux malades ou aux familles des malades quand il fallait leur annoncer les plus tristes nouvelles ? Comment vous vous y preniez ?
D'abord, il faut essayer d'écouter, d'entendre ce que les gens sont capables de recevoir comme information. On n'annonce pas des nouvelles dramatiques de la même façon à tout le monde, à toutes les familles. Ça dépend évidemment de l'âge des gens, de la structure familiale, de leur capacité à se battre, de leur entourage et de leur volonté de savoir ou pas. Et donc ça nécessite pour chaque diagnostic, pour chaque annonce, un vrai travail d'appropriation de ce que les gens sont en face de soi.
Regrettez-vous d'être allé en politique ?
Jamais.
Quel bilan pourriez-vous tirer de l'action d'Elisabeth Borne à Matignon ?
Ah, je l'admire beaucoup. D'ailleurs, je lui dis assez souvent, Elisabeth Borne est quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement sérieux, de droit. Et je suis heureuse que nous soyons représentés par des femmes politiques qui ont autant de convictions et de résistance.
Que vous souhaitez-vous pour les prochaines années ?
J'ai envie d'être utile. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'anime. Où est-ce que je peux être utile avec la carrière que j'ai faite, mais voilà, et mon savoir-faire ? Dans quel domaine, dans quel poste ? C'est encore une grande interrogation.
Quel est votre remède contre la violence des réseaux sociaux ?
Bon, je ne les regarde plus déjà. J'ai fermé les écoutilles et je demande à mes enfants de ne pas les regarder. Car en réalité, quand vous regardez de près, vous avez 200 ou 300 personnes qui tweetent des horreurs. enfin 200, 300 personnes sur 60 millions de personnes. Et donc ça donne une vision totalement déformée. Il y a de quoi rendre paranoïaque, en fait. Donc il ne faut pas les regarder, il faut poursuivre sa route avec ses convictions et les exprimer.
Vous écrivez page 348 de ce livre, Agnès Buzyn, « Quand je vais mal, seul le travail parvient à me calmer ». Avez-vous d'autres exutoires ou passe-temps ?
Alors, c'est vrai, c'est ce que j'ai essayé d'enseigner à mes enfants. Vraiment, quand je vais très mal, et j'ai eu d'autres moments dans ma vie, je travaille. Je me mets à travailler, et c'est vrai que ce journal, cette écriture, m'a sauvée. Le travail à Percy m'a sauvée. Au moment du confinement. J'ai d'autres histoires. J'aime le cinéma, j'aime énormément j'aime la musique, j'aime ma vie de famille. J'ai une famille formidable, extrêmement proche. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais tenu.
Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été l'invitée de Sens Politique. Merci à toute l'équipe, à la préparation, l'indispensable Anne-Claire Bazin, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Ludovic Auger, à la vidéo Flavien Andrisiak. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.